Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, du lundi au jeudi sur France Culture, mais un débat un peu particulier, puisqu'il a été enregistré hier à l'Institut du Monde Arabe à Paris, à l'occasion des Journées d'Histoire du Monde Arabe. Bonsoir, que veut la génération des printemps arabes ? Nous allons de surprise en surprise, et si ce débat s'était tenu il y a tout juste 2 ans, par exemple, nous aurions sûrement fait le bilan souvent difficile des mouvements qui s'étaient levés de Tunis à Damas en passant par le Caire, et nous aurions sûrement conclu sur l'échec de ces printemps arabes. Mais depuis cette date, depuis 2 ans, il y a eu l'Algérie, il y a eu le Liban, il y a eu le Soudan, des expériences variées qui montrent qu'une révolution ne se déroule évidemment pas en quelques mois, ni même en quelques années. Y a-t-il une ou plusieurs générations des printemps arabes? Et si elles existent, ces générations, que veulent-elles dire exactement? C'est ce que nous allons voir avec nos 3 invités, avec Manon Nourtanous, qui est maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Reims et chercheur associé au Collège de France et à Paris 2. Elle est autrice de Chirac, Assad et les autres aux Presses universitaires de France. Avec In Medeb, qui est documentariste et qui a travaillé à la fois sur les révolutions en Tunisie, en Égypte et beaucoup plus récemment, c'est il y a quelques semaines encore, vous étiez au Soudan. Et notre 3e invité, Ziad Majed, qui est spécialiste du Liban et qui enseigne à l'Université américaine de Paris. Alors pour commencer, peut-être, vous savez que la notion de génération est une notion extrêmement débattue, parce que généralement on a l'impression que on appartient à une génération exceptionnelle, très différente des précédentes et très différente des autres. Et est-ce que cette notion de génération, In Medeb, vous paraît une notion valide pour parler de ce qui s'est passé depuis 2011 dans tous ces pays?
Alors pour moi, il n'y a pas de rupture de génération. Il y a plutôt des discussions, des dialogues et une forme de continuité. Et même si on avait été assis ici il y a 2 ans et qu'on avait parlé d'échecs, j'aurais plutôt dit que non, parce que quand on a l'impression de l'extérieur qu'une révolution échoue, dans la réalité, elle marque sur le long terme les imaginaires. Et comme on l'a vu sur le temps long avec la Révolution française, on a eu des retours à la dictature avec l'Empire, ensuite le retour de la Restauration. Et donc, il y a toujours des étapes et des contre-révolutions. Quand il y a une révolution, il y a toujours une contre-révolution. Mais une révolution, elle marque vraiment sur le long terme. Et ce que je pourrais dire, par exemple, pour le Soudan, c'est que, en réalité, je ne le savais pas lorsque je suis arrivée au Soudan, je l'ai découvert en parlant avec les gens, c'est la 3e révolution. Il y en a eu une première en 1964, une seconde en 1985. Il y a eu des expériences démocratiques. Et ce qu'on a pu voir avec la révolution en 2018-2019, c'est qu'il y avait constamment dans les slogans révolutionnaires des références à la révolution d'octobre et d'avril, et des références aussi à la poésie, qui est très importante dans tous ces pays et qui a joué un rôle dans les soulèvements. Un rôle, par exemple, dans un pays comme l'Égypte. Il y a un grand poète qui s'appelle Ahmed Fouad Naguem, qui était très ami avec Sheikh Imam, qui est un chanteur et joueur de luth. Donc c'est dans les années 60 qu'ils ont commencé. Ils ont tous les deux passé une grande partie de leur vie en prison. Et à ma grande stupéfaction, en 2011-2012, quand il y avait la révolution en Égypte, il y avait un mouvement musical qui venait des bidonvilles du Caire, donc vraiment un mouvement de la jeunesse, des jeunes de entre 15 et 20 ans, qui chantaient des chansons très très controversées et qui faisaient la critique du régime de Moubarak, même avant la révolution. Et j'ai découvert qu'il s'inspirait de Ahmed Fouad Naguem. Et quand il a fêté ses 80 ans, il a invité les stars de cette musique des Mahraganes, l'électro-charabi, on dit ça en français, à jouer à son anniversaire. Et il dansait en disant « Vous êtes mes enfants ». Donc il y avait à la fois la reconnaissance de la part de quelqu'un qui a milité toute sa vie, des années 60 jusqu'à sa mort en 2013, et de cette jeunesse qui avait moins de 20 ans et qui assistait à son anniversaire et pour qui il était le père de tous les chants qu'eux-mêmes écrivaient aujourd'hui. Donc il n'y a pas du tout cette idée que les vieux seraient has-been et que les jeunes détiendraient quelque chose de fondamentalement nouveau.
Nouveau.
Oui, et dans la rue, on l'a vu, hein, que ce soit à Tahrir, aussi au Soudan, on a vu des gens de tous les âges chanter ensemble.
Maintenant, Nour Tanous, vous êtes spécialiste de la Syrie. Alors peut-être, il y a 2 ans, nous aurions dit les mêmes choses que nous allons dire aujourd'hui, puisque effectivement, c'est une révolution avortée qui s'est passée en Syrie. On sait comment cette révolution a tourné à la guerre civile et à la guerre ouverte, même avec les voisins, comme c'est le cas depuis quelque temps. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce qui s'est passé en 2011 dans ce pays et de cette levée en masse de gens qui ont protesté dans les rues? Est-ce que c'était une ou plusieurs générations? Et est-ce que, comme le disait Inmedeb, ces générations étaient mélangées les unes avec les autres et faisaient référence à des histoires plus anciennes?
Alors, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur le fait qu'il ne faut pas se contenter au constat de changement de régime ou non, qu'on a eu des processus révolutionnaires qui tous n'ont pas eu d'issue révolutionnaire, mais effectivement, il faut raisonner plus en termes de continuité. Alors, pour la Syrie, la question de génération, je dirais quand même qu'il y a quelques, à grands traits, hein, quelques points communs dans ces gens qui sont sortis manifester en 2011. Déjà, il faut saisir cette génération d'âge, hein, en 2011. Ceux qui ont connu d'autres dirigeants que des Assad ont 40 ans ou plus, puisque les Assad sont arrivés au pouvoir en 70.
Ça fait un vrai saut générationnel, là.
Donc il y a déjà cette problématique, effectivement. Ce sont aussi, on a une génération, ce n'était pas les seuls dans la rue, mais qui a une socialisation différente que celle de leurs parents, puisqu'il y a un accès aux chaînes satellitaires à partir de la fin des années 90, puis progressivement à Internet, avec des moyens de communication nouveaux, même si on a, à mon sens, un peu surestimé ce trait caractéristique. Je crois que là, il y a une lecture, un cadrage plutôt occidental qui a voulu voir dans ces personnes, ces hommes, ces femmes qui sortaient dans la rue, des individus qui ressemblaient à notre idéal occidental, donc des jeunes branchés, technophiles, si possible anglophones.
Vous voulez dire que c'était une sorte de biais que nous avions de regard occidental sur ce qui se passait en Syrie, par exemple?
Ça existait, mais je crois qu'on a mis l'accent sur ce type de profil parce que ça nous ramenait à quelque chose de connu et on retrouvait là des éléments rassurants dans un bouleversement qui, par définition, est inquiétant pour les chancelleries occidentales. Et d'ailleurs, dans certains pays, si on essaye de corréler les lieux des soulèvements et la connexion dans ces régions, le lien n'est pas forcément évident. Donc on a beaucoup parlé de génération Facebook ou de génération 2.0. Là, c'est sans doute une image un peu déformée de la réalité. Mais si je peux donner peut-être un dernier point commun pour réfléchir à cette idée de génération, c'est qu'il y a malgré tout des souffrances communes en 2011. Si les gens sont sortis dans la rue, dans le monde arabe et en Syrie, c'est parce qu'on a des générations de plus en plus éduquées, de plus en plus urbaines, dans des familles, des cellules familiales de plus en plus restreintes, qui se retrouvent sur un marché du travail dominé par le secteur public, sans possibilité d'accéder à l'entrepreneuriat ou même d'avoir des crédits pour investir dans le secteur privé. Et donc on a là la figure, sans doute aussi un peu simpliste, du chômeur diplômé, mais qui sert quand même à donner un des traits de ces jeunes qui sont sortis dans la rue en 2011.
Et quel était le regard, par exemple, de ceux qui, 40 ans plus tôt, avaient eux aussi été aussi descendus dans la rue, avaient eu une expérience différente avant l'arrivée des Assad au pouvoir? Quel était le regard sur ce qu'ils voyaient? Est-ce que vous avez pu discuter avec ceux ou celles qui, disons, avaient 40 ans de plus et peut-être étaient surpris de voir descendre ces gens dans la rue à ce moment-là, en 2011?
Alors, il y a eu des réactions très diverses. Hein. À la fois, il y a une scène oppositionnelle ancienne dans tous ces pays, en Syrie en particulier, mais qui était plus caractérisée par une logique partisane. Donc, on avait des partis politiques d'opposition avec des leaders, ce qui ne caractérise pas du tout le mouvement de 2011. Donc, sans doute, pour certains d'entre eux, la volonté de courir derrière ce mouvement et de prouver que leur opposition au régime autoritaire est plus que valable. Et ça a été d'ailleurs une forme de critique, notamment par rapport aux opposants en exil, hein, de dire qu'ils avaient un ancien logiciel ou qu'ils étaient déconnectés de la réalité. Mais on a d'autres trajectoires, je pense notamment à celle de Riyad Turk, qui est un opposant historique communiste en Syrie, et qui disait, je crois que c'était en 2018, après avoir quitté le pays, que lui, si on lui demandait son propre rôle, ce serait, s'il y a une place sur le trottoir, de regarder la jeunesse passer et de l'applaudir, que cela lui suffirait. Donc il y a eu ces deux attitudes, de passer le relais à d'autres formes de mobilisation et pour certains, sans doute, de s'accrocher à ce mouvement en cours.
Moi, ce que j'ajouterais, c'est que les partis politiques ont été complètement démantelés par les différentes dictatures. Donc, les leaders politiques ont passé une grande partie de leur vie en prison, ont été brisés. Il y a eu véritablement une volonté de briser notamment la gauche et les partis communistes, que ce soit en Syrie, mais c'est la même chose aussi au Soudan, en Égypte. Donc, finalement, ces modes de mobilisation nouveaux, ils sont aussi par défaut, parce que les choses ont été complètement détruites. Et quand on parlait de génération tout à l'heure, je voulais donner un exemple assez concret. La blogueuse tunisienne Lina Benhani, qui nous a quittés récemment, ouais. Qui est morte prématurément
à
36 ans d'une maladie auto-immune dont elle souffrait depuis qu'elle était enfant. Elle est la fille d'un très grand militant qui a passé 7 ans en prison à l'époque de Bourguiba et qui est l'un des fondateurs de la revue politique Perspective, qui était une des seules voix dissidentes sous la dictature de Bourguiba dans les années 70-80, où il y avait eu aussi des émeutes du pain au début des années 80 en Tunisie qui ont été très très violemment réprimées. Donc là aussi, une continuité, à mon avis, plus qu'une rupture.
Une continuité, mais aussi des modes d'action différents, puisque nous allons y venir. Et vous le disiez, Manon Nourtanous, tout à l'heure, ces personnes, il n'y a pas de leader, ce ne sont pas des partis. Dans beaucoup des endroits dont on va parler, en Tunisie avec vous, Inmedem, mais aussi au Soudan ou en Égypte, c'est une sorte de désordre de courage, comme on aurait dit de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est très différent de ce qu'on pouvait imaginer auparavant, de ce qu'était une révolution forcément menée par une avant-garde représentée par un parti, par exemple.
Oui, même si au Soudan, le parti communiste reste extrêmement important et puissant, et aussi les syndicats, ce qu'on appelle le SPA, ce sont les représentants de tous les grands métiers, les docteurs, les ingénieurs, et ils ont réussi à rester organisés, et ils ont quand même apporté beaucoup de modes opératoires à la révolution soudanaise.
Manon Nourtanous, sur ce point, justement, sur cette supposée désorganisation de ces populations qui font la révolte, voire la révolution.
C'est une des caractéristiques du mouvement de 2011, mais c'est aussi sa richesse que d'être sans leader, sans personnalité charismatique, sans la volonté de remplacer les dirigeants contre qui lutte par un autre. Donc c'est vraiment un changement de pensée, de mouvement par le bas, que les chancelleries occidentales et autres ont eu du mal à considérer, parce qu'il est beaucoup plus confortable de parier sur une nouvelle personnalité que de parier sur un mouvement où il n'y a pas de leader en particulier.
Ziad Majed, je disais tout à l'heure, au tout début, que en fait, si on avait tenu cette discussion il y a 2 ans, on aurait peut-être été sur un constat d'échec, et qu'au bout du compte, on s'aperçoit que depuis 2 ans, il y a eu le Soudan, d'où revient à l'instant même Inmedeb, il y a eu évidemment l'Algérie, et puis maintenant, depuis quelques mois, le Liban. Vous revenez vous-même.
Et l'Irak aussi. Et l'Irak,
bien sûr. Vous avez raison. Et l'Irak. Et vous revenez vous-même du Liban très récemment. Est-ce que justement, ce deuxième sursaut, pourrait-on dire, des printemps, c'est-à-dire ce sursaut à la fois dans certains pays qui ne l'avaient pas pratiqué auparavant, mais aussi dans d'autres pays qui l'avaient déjà fait, est-ce que ça dit quelque chose de différent, justement, sur cette question de génération dont on veut parler ici même, Ziad Majed?
Non, je pense que la question se pose également en Irak, au Liban, en Algérie et au Soudan. Il y a une nouvelle génération. Cela ne nie en rien l'accumulation des luttes des anciennes générations. Il y a eu plusieurs campagnes, il y a eu des mobilisations, il y a eu des sacrifices, il y a eu un travail sérieux qui a été fait. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport au langage, par rapport à la présence dans la rue, par rapport à la forte participation des femmes de la nouvelle génération. Et je considère que cette question est tout à fait légitime au Liban également, avec des gens qui sont nés après le grand clivage qu'a connu le Liban, clivage à la fois politique, comme confessionnel en 2005 entre deux camps qui s'opposaient sur des questions de partage de pouvoir, mais surtout de questions par rapport au régime syrien, par rapport à Hezbollah et ses armes. Donc il y avait une autre dynamique. La plupart des gens qui sont dans la rue aujourd'hui
au Liban
avaient 4 ou 5 ans en 2005, donc ils ne sont plus concernés par cet ancien clivage-là. Ils ont un autre logiciel. On voit qu'il y a un langage corporel qui est différent.
Qu'est-ce que vous pouvez décrire de cela, par exemple ?
Il y a une culture de joie dans les manifestations, malgré la tragédie économique et financière que vit le pays. Il y a de la musique, il y a de l'humour. Il y a une véritable présence féministe au niveau des slogans. Je ne dis pas que tous les manifestants sont devenus féministes, loin de là, mais beaucoup de choses ont évolué à ce niveau. En 2005, les manifestations étaient avec un air plus sérieux, les conditions dans lesquelles elles se déroulaient étaient plus graves, les slogans étaient par rapport à la libération du pays de l'hégémonie syrienne, ou bien étaient pro-régime syrien d'autre part, tandis qu'aujourd'hui, on parle de la fin d'un certain confessionnalisme politique qui a pendant très longtemps permis à l'élite politique qui gouverne aujourd'hui de se partager le pouvoir et ses acquis et les intérêts économiques.
Un président de la chambre chiite, un
exactement, on a un système
un président maronite, ici, la communauté maronite.
On parle d'un certain système consociatif où les élites des confessions différentes se partagent les positions, mais également se partagent l'économie, et donc se partagent la corruption, le clientélisme, se partagent les succès comme les déclins, avec une corruption rampante, et tout cela se pose aujourd'hui comme question dans la rue avec une nouvelle génération qui veut en finir avec ce système confessionnel ou bien qui veut le réformer d'une manière sérieuse, qui parle de la présence des femmes, non pas comme participation politique comme ce fut le cas avant, mais comme présence qui lutte contre le patriarcat, contre un système qui a écrasé les droits des femmes pendant de longues années. Donc il y a pas mal de choses qui changent, et juste si vous permettez, peut-être le Liban, je ne veux pas dire qu'il est différent dans un sens au niveau de la société des autres pays, mais quand même il n'y avait pas au Liban la même répression politique qui existait ailleurs, où on n'a pas le droit d'écrire des articles, où on peut aller en prison pour une opinion exprimée ou un slogan sur un mur. Il n'y avait pas ce problème-là. Le problème est par rapport à la participation politique et le renouveau des élites, par rapport à la corruption, à l'arrogance, par rapport au racisme envers les réfugiés. Mais ce n'était pas l'idée de s'exprimer. On peut s'exprimer, on continue à le faire. Et donc, il y a cette différence qui peut être examinée différemment.
Mais vous qui tenez pour l'idée d'une génération effectivement libanaise de cette révolte ou de cette révolution en cours, quand il y a génération, il y a conflit de génération. Est-ce que vous le sentez, ce conflit de génération au Liban, et avec qui, justement ?
Oui, on peut parler d'un certain conflit de génération, dans le sens où moi-même, j'appartiens à la génération qui a vécu la guerre civile. On a vécu 15 ans de guerre civile. Dans l'après-guerre, on avait d'autres priorités. Notre culture politique a évolué, dans mon cas, autour d'une certaine gauche qui a échoué durant la guerre. Aujourd'hui, la nouvelle génération n'est plus concernée par les mêmes problématiques de la guerre. Sa mémoire s'est construite durant l'après-guerre, et durant cette après-guerre-là, elle a vu une classe politique corrompue, elle a vu des clivages qui n'ont mené le pays finalement nulle part, elle est confrontée à une situation dans la région qui évolue avec des soulèvements et des révolutions qui se succèdent, et puis qui a essayé de s'imposer, tout en préférant des relations politiques horizontales. Au début, tout le monde était ravi que c'était spontané, qu'il n'y avait pas le leader charismatique, qu'il n'y avait pas un parti politique qui prenait le dessus. Mais aujourd'hui, on réalise, et c'était ça les discussions les dernières semaines à Beyrouth, on réalise qu'il faut quand même une forme d'organisation, de coordination, qui ne prend pas le modèle de l'hiérarchie très verticale, mais qui permet une coordination à la fois horizontale dans le sens même physique du terme, parce que la révolution au Liban est très décentralisée. Elle n'est plus comme avant aussi à Beyrouth. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent à Tripoli dans le nord, à Saïda dans le sud, à Nabatieh, et ça c'est une nouveauté, dans la Bekaa, donc du côté de la frontière syrienne. Comment trouver un moyen de préserver une décentralisation, mais en même temps coordonner et centraliser la décision de la descente dans la rue et des slogans, et en même temps quelle alternative proposer à la population libanaise en cas de victoire ou de succès et en cas d'affaiblissement et de déclin de l'actuel gouvernement et de l'élite qui le soutient.
Manon Nortanous et puis Madame Manon Nortanous.
Oui, sur la question transgénérationnelle en Syrie, je crois effectivement il y a des caractéristiques bien précises au mouvement de 2011 et on les a déjà tous les trois évoquées, mais un combat n'annule pas forcément celui qui a eu lieu les années précédentes. Mm-hmm. Je crois que c'est Jean-François Sirinelli qui parlait pour mai 68 de génération palimpseste, donc oui. Le fait de réécrire sur les luttes des anciens. Et en Syrie, il y a là aussi une scène oppositionnelle ancienne, que ce soit à partir de 2000, les clubs de pensée ou la génération ou la déclaration de Damas, ou avant, ce qui a été beaucoup mobilisé pendant les manifestations, le soulèvement de Hama en 1982.
Il faut rappeler pour ceux qui sont
ici,
pour
les auditeurs. Soulèvement dans une ville du centre du pays.
Qui a été très sévèrement réprimé.
Voilà, animé par une composante des frères musulmans, mais la répression a touché une très grande partie de la ville, civile compris. Ça a fait entre 10 000 et 30 000 morts selon les sources. Et dans les premières manifestations, on avait par exemple, en février 2012, c'était les 30 ans du massacre de Hama, on avait des slogans « Hama, pardonne-nous » pour montrer qu'il y avait quand même une continuité, une mémoire des luttes anciennes, même si les enjeux n'étaient plus les mêmes, mais ne pas effacer le sacrifice des anciens et surtout montrer que les techniques répressives du régime étaient les mêmes.
Oui, et avec aussi, peut-être on y reviendra tout à l'heure, l'idée qu'il fallait se distinguer des précédents parce que prendre les armes, par exemple, ça n'était peut-être pas la très bonne idée. C'est ce qui vous est arrivé aussi quand vous avez regardé ce qui s'était passé au Soudan, il m'aidait.
Mais alors, au Soudan, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment observé tout ce qui s'est passé avant.
Puisque c'est une révolution qui est plus tardive que les autres.
Exactement, c'est une révolution.
Ça commence donc en décembre 2018.
Décembre 2018, c'est jusqu'au mois d'août 2019, et elle n'est pas finie, elle est en cours cette révolution, parce que la situation est extrêmement fragile actuellement au Soudan. Mais en tout cas, dans leur esprit, ce qui s'est passé en Syrie était très présent. Ils sont aussi face à un état militaire extrêmement violent qui a commis des crimes contre l'humanité au Darfour, au Kordofan, dans le Nil Bleu, presque 50 ans de guerre civile.
D'ailleurs, peut-être Omar el-Bashir va-t-il donc aller au tribunal pénal international, en l'occurrence le dictateur qui est tombé déchu pendant cette révolution.
Le problème, c'est que il est tombé, mais derrière lui, il y a tout son appareil et l'état profond qui est toujours en place, et notamment l'homme fort actuel du pays au Soudan qui s'appelle le général Hemiti, qui est responsable de nombreux crimes au Darfour, et lui, il n'est pas inquiété pour le moment, donc ça pose un problème. Mais en tout cas, les Soudanais tenaient à ce que cette révolution reste pacifique, parce qu'ils ont traversé presque plus d'un demi-siècle de guerre civile, et qu'ils veulent vraiment mettre fin à toutes ces guerres, et ils pensent qu'ils n'ont aucune chance de gagner cette révolution et d'obtenir ce qu'ils souhaitent obtenir par les armes.
C'est d'ailleurs stratégique. Ils se sont trouvés dans des situations de sit-in, par exemple, avec l'armée qui leur tirait dessus, et ils ont malgré tout, ils n'ont pas pris les armes parce qu'ils ont pensé que s'ils les prenaient, c'était une sorte de piège dans lequel ils tomberaient et qui permettrait la répression
encore
plus.
Certains révolutionnaires ont même raconté que il y a eu un sit-in qui a duré 57 jours à Khartoum, dans un espace immense. En fait, c'était quasiment une ville dans la ville. C'est peut-être le plus grand sitting qu'on ait jamais vu dans le monde, hein, je peux dire ça. C'est-à-dire que c'était toutes les rues adjacentes au ministère des armées. Et les gens ont installé des tentes, qui représentaient toutes les régions du pays, ont monté en fait des scènes, donc il y avait des concerts de musique. Ils ont créé aussi deux cliniques pour accueillir les gens qui étaient malades, une tente pour les enfants des rues, une école pour les enfants des rues. C'était vraiment très impressionnant, une librairie partagée, donc où les gens amenaient des livres. Il y avait quelques livres le premier jour, à la fin il y en avait 5000. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce sitting? Parce que la chute du dictateur ne leur suffisait pas. Du même point de vue des autres expériences qu'il y a eu autour d'eux, ils disaient quand Moubarak est tombé, on a pensé que ça suffisait, que la révolution allait tenir, et on a bien vu ce qui s'est passé. Donc on veut que tous tombent. On veut que tout le pouvoir militaire rende les armes et qu'il y ait une véritable passation du pouvoir aux civils. Donc ça, c'était les slogans pendant ces 57 jours d'occupation. Évidemment, l'armée a fini par intervenir dans un massacre qui a eu lieu le 3 juin, volontairement 130 morts et puis beaucoup de disparus, des cadavres qui ont été jetés dans le Nil, et surtout une intervention qui est arrivée par surprise, où ils ont mis le feu aux tentes, donc il y a des gens qui étaient en train de dormir, et la volonté était d'humilier, de violer, de frapper et d'obliger les gens à dire des slogans pro-militaires. Et ce qui est impressionnant, c'est que ce moment de terreur a été suivi par des militaires qui rentraient dans les différents quartiers, les quartiers dissidents, ceux qui étaient connus pour avoir résisté du temps de la dictature, et pour rentrer au hasard dans les maisons, frapper, violer, tuer. Donc les gens ont commencé à mettre des barricades, et donc ça a été une guerre de barricade à barricade, et très souvent l'armée laissait des armes, des fusils, pour inciter les gens à prendre les armes. Voilà. Et les gens, et donc il y a eu là un conflit de génération, et ce sont les jeunes qui ont empêché les plus âgés de prendre les armes, avec toujours cette volonté de rester pacifique, qui est d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que c'est ce qui a, je pense, le plus déstabilisé les militaires. Les militaires ont l'habitude au Soudan de s'opposer à des rébellions armées, c'est ce qui s'est passé par exemple au Darfour, à des rébellions armées qui se cachent dans les montagnes, et tout d'un coup d'avoir des millions de gens dans tout le pays qui descendent dans la rue pacifiquement, ça les a totalement déstabilisés. Et l'autre mode d'action qui est très intéressant, c'est la grève générale, c'est-à-dire que plutôt que de descendre dans la rue et de se faire tirer dessus, c'est ville morte. Ce qu'ont fait les Soudanais une semaine après le massacre du 3 juin, une grève générale qui était suivie à 90%, il n'y avait pas un seul avion qui volait, les pilotes ont fait grève, le directeur de la banque centrale a fait grève, donc les miliciens ne pouvaient pas retirer leur salaire, ce qui a posé un énorme problème. Donc il y a eu des inventions de nouvelles techniques au Soudan que j'ai trouvées vraiment passionnantes, et pour montrer en gros le pays est contre vous, le pays n'est pas avec vous. Est-ce que vous allez continuer à gouverner sur un peuple qui ne veut pas de vous ?
Ziad Majed.
Moi je pense que toutes les révolutions arabes, sans exception, en 2011 comme en 2018-19, étaient des révolutions pacifistes. La question de la violence ne s'est jamais posée comme une option ou comme une volonté et comme une détermination, disons, militaire.
Il y a pas eu plus, le cas libyen. Pas plus en Tunisie qu'en Algérie.
Pas plus en Syrie même qu'ailleurs. La responsabilité de la violence et de la barbarie a toujours été, et sans exception, la responsabilité des régimes en place, qui pour eux, la violence est la politique. C'est-à-dire, le régime syrien ne comprend pas la politique qu'à travers la violence. Une violence qui n'est pas toujours arbitraire, qui sait comment cibler pour créer les divisions confessionnelles et politiques. Le régime libyen comprend la politique comme un exercice permanent de violence. C'était le cas en Irak également, et la révolution irakienne en 2019 était une révolution et continue à être une révolution très pacifique face à des milices, face à un gouvernement qui tire sur les gens. Et la même chose en Égypte avant. Aujourd'hui, l'Algérie continue pour le 54e ou 55e semaine consécutive très pacifiquement. Et il y a évidemment la leçon de la Syrie qui est présente dans les esprits. Comment éviter le scénario catastrophique syrien durant lequel le régime a massacré des dizaines de milliers, de centaines de milliers de gens, aidés par les Russes et épaulés par les Iraniens. Donc comment éviter ce genre de scénario et n'en parlons pas aussi du scénario du Yémen où les interventions militaires des Émirats et de l'Arabie Saoudite et de l'Iran contribuent aussi au massacre à ciel ouvert. Donc c'était une question de principe chez les gens d'éviter. Je finirai par l'exemple irakien, qui est très difficile d'ailleurs, parce qu'en Irak, non seulement ils font face au gouvernement, mais ils essayent aussi d'échapper à toute récupération ou manipulation iranienne comme américaine.
Oui, ce qui est compliqué.
Puisque le pays est occupé par ces deux forces-là, donc ils naviguent politiquement tout en préservant une mobilisation dans la rue face au gouvernement et à l'alliance qui le soutient.
Manon Nourfanous.
Oui, sur la question de la militarisation, je rejoins ce qui a été dit. Sur le cas syrien en particulier, c'était pas une volonté organisée, c'est une militarisation par le bas qui a suivi une série d'initiatives pacifistes très longues, très innovantes. Je rappelle que les premières victimes de la répression, on parlait de génération tout à l'heure et de jeunes, ce sont des adolescents au sud du pays qui sont arrêtés, torturés, leurs corps rendus à leur famille pour avoir écrit « Ton tour viendra, docteur ». Donc il y a cette violence d'État immédiate et disproportionnée qui suscite une première militarisation qui consiste à protéger les manifestations, à laquelle s'ajoute une militarisation par les défections, donc par des jeunes Syriens enrôlés dans l'armée qui ne souhaitent pas participer à la répression avec le régime et donc qui quittent avec leurs armes. Et juste peut-être un dernier point sur cette militarisation. Le débat existe au sein de l'opposition syrienne aujourd'hui de savoir s'il fallait le faire ou non. Mais il faut bien se remettre dans le contexte de 2011-2012 où ces gens qui sortaient dans la rue pensaient pouvoir compter sur un soutien occidental, peut-être entre autres militaire, et ce qui ne s'est pas avéré juste face aux alliés du régime.
On a évoqué ces questions de génération avec vous trois, Inmedem, mais on n'a pas encore tout à fait dit ce que cherchaient justement ces personnes qui descendent dans la rue. Vous revenez du Soudan. Qu'est-ce qu'ils demandent ou qu'est-ce qu'elles demandent, ces personnes? Bon, évidemment, le cas soudanais est très différent des autres. Pendant 30 ans, une dictature liée aux frères musulmans, avec une dictature religieuse très dure, qui interdisait justement de contester des visions donc décidées par le pouvoir à partir de l'islam radical. Qu'est-ce qu'ils veulent, par exemple, de différent? Vous connaissez la Tunisie aussi, vous connaissez bien évidemment l'Égypte également pour y avoir tourné. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette volonté? Parce qu'on se dit, qu'on fait, est-ce qu'ils ne veulent pas, par exemple, des régimes islamistes ou pas?
Alors, je dirais qu'au Soudan, la particularité du Soudan, c'est d'avoir traversé 30 ans d'une dictature religieuse. Donc, c'est quand même très différent. Donc, c'est plus qu'une dictature religieuse, c'est une dictature qui a pu régner en essayant, justement, en divisant les différentes confessions. Et c'est une dictature qui a imposé la langue arabe, l'islam comme religion, et qui a considéré que être arabe, c'était être supérieur à être africain. Dans un pays où on parle plus de 500 dialectes, une centaine de langues différentes, vraiment des langues différentes, et où les ethnies, c'est un pays qui est profondément arabo-africain, le Soudan. Donc, l'un des slogans les plus forts, je dirais, de la révolution soudanaise, c'est nous sommes tous d'Arfourie, c'est de dire qu'on ne veut plus de cette politique d'uniformisation avec la langue arabe comme langue unique et avec l'islam comme unique religion. Et je dirais même qu'on est dans une ère post-islamiste. Mon père, Abdelwahab Medeb, j'ai beaucoup pensé à lui. Il nous a quittés il y a 5 ans quand j'ai assisté à cette révolution, parce que c'est une révolution où les femmes étaient en première ligne. On a été jusqu'à dire que la révolution soudanaise était une femme, la Kandaka. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, d'une femme habillée en blanc montant sur une voiture, et elle chantait un poème du grand poète Azhari qui s'intitule « La balle ne tue pas ». Et elle chantait « Il nous brûle au nom de la religion, il nous tue au nom de la religion, il nous emprisonne au nom de la religion, mais la religion n'a pas à être accusée ». Donc il y a cette idée que chacun peut pouvoir vivre sa religion librement. Et ce qui m'a frappé aussi, donc dans tous les slogans qu'on voyait, les gens tenaient des slogans, je les appelais les messagers silencieux, et on les voyait un petit peu partout sur le sitting, et un des slogans c'était un Soudan sans tribalisme et avec la possibilité de vivre librement sa religion.
Ziad Majed, veut là justement, oui, c'est très différent au Liban aussi pour d'autres raisons.
Plus ou moins différent, sauf que le Liban, il est un pays, la société est très mixte, donc il n'y a pas une démographie dominante d'un groupe religieux, il y a 17 ou 18 communautés religieuses. Mais moi, avant de revenir au Liban, si vous permettez, 3 observations très rapides. La première, par rapport à la dictature soudanaise, c'est, je dirais, une dictature militaro-islamiste plutôt que islamiste ou religieuse, parce que c'était des généraux, et c'est le seul cas d'ailleurs où les frères musulmans étaient affiliés au pouvoir, parce que dans toutes les autres révolutions arabes, les frères musulmans faisaient partie des révolutions contre des régimes qui prétendaient la laïcité et même qui faisaient un chantage et souvent qui séduisaient des occidentaux en parlant de leur présence en tant que seul rempart face aux islamistes. Donc le Soudan, à ce niveau-là, est un peu différent des autres. Deuxième observation, c'est qu'il faut distinguer, à mon avis, et je reste prudent, entre les révolutions 2018, 2019, 2020 et 2011. C'est vrai que 2018, 2019, 2020, la présence des slogans religieux est de loin inférieure à ce qu'on voyait en 2011. Même les apparences religieuses ont je ne veux pas dire disparu, parce que je pense que l'islamiste et les religieux et les pieux sont toujours très présents dans toutes les sociétés, mais ils sont moins imposants. Et il y a plus de personnes dans la rue qui considèrent que l'expérience 2011-2012 les a aussi appris que l'islam politique ne peut pas être l'alternative. Même si entre militaires et islamistes, parfois au niveau électoral, il y a des chances d'être hésitant. Et troisième observation qu'on n'a peut-être pas évoquée avant, c'est que les rituels dans les manifestations de cette génération-là ressemblent beaucoup aux rituels qu'on trouve dans deux espaces où les gens pouvaient se rencontrer, et notamment les jeunes, sans beaucoup de présence policière opprimante. Les stades de football et les mosquées. Les stades de football se sont projetés avec les chants, avec les gens qui s'embrassent. En Algérie, c'était évident. Et en Égypte, c'était encore plus évident en 2011. Et le premier massacre orchestré par les militaires durant le coup d'État et la contre-révolution qui a eu lieu en 2013, c'était contre les fans, les ultras du Ahli, le grand club sportif du Caire. Même chose en Syrie, il y avait une icône de la révolution qui était le gardien de but d'une équipe à Homs, Sarout. Donc il y a les questions de là où les gens sentaient la solidarité, moins de peur face aux policiers puisqu'ils sont nombreux. Il y a une rassabilla, il y a une dynamique de solidarité mécanique entre les gens. Même chose dans les mosquées. Peut-être on la voit moins dans le cas du Liban ou dans le cas du Soudan, vous pouvez me corriger. En Irak, on voit qu'il y a aussi un dépassement du confessionnel dans les slogans. Je dirais que ce qui est commun dans tous ces cas, c'est cette quête de la dignité, la quête de la liberté individuelle comme politique collective, et le refus de toutes les élites qui ont écrasé les sociétés arabes depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui.
Alors Manon Nourtanous, on va terminer avec vous, puisque effectivement on parle des révolutions de 2011 et de 2018, 19 et 20. Qu'est-ce qui peut advenir effectivement de ce qui s'est passé en Syrie? C'est très différent évidemment, puisqu'entre-temps il y a eu une immense guerre civile, voire une guerre déclarée avec les voisins. Donc tout cela va laisser des traces très différente de ce qui a été dit à la fois par Ine Medev et par Ziane Majed.
Oui, évidemment. Mais encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas eu d'issue révolutionnaire ne veut pas dire que la société syrienne n'est pas restée animée par une volonté de liberté comme dans les autres pays. Si je peux juste compléter ce qui a été dit sur les slogans de 2011 en Syrie, ils sont au début très modestes et très concrets. Il s'agit de libérer les prisonniers, de lever l'état d'urgence qui a été instauré sous prétexte de la guerre contre Israël et qui est un outil pour verrouiller les sociétés. Il n'arrive à la demande de la chute du régime que du fait de la répression de ce dernier. Alors ensuite, il y a eu ces deux phénomènes que l'on a déjà un peu évoqués, l'islamisation, que le régime a encouragé tant il était conscient que ce serait un épouvantail pour l'Occident et que ça lui permettrait de se rendre fréquentable par rapport à ce qui apparaissait comme plus effrayant. La militarisation, l'islamisation et l'apparition de l'État islamique, donc en Irak et en Syrie, ce qui a complètement effacé les dynamiques de 2011, d'où l'intérêt de revenir à cette problématique que voulait-il à l'époque. Et je crois, même s'il y a peu de raisons d'être optimiste sur la situation syrienne, qu'il y a des dynamiques politiques venues du bas qui restent intéressantes. Toute cette manière de monter des comités de coordination, d'esquisser une démocratie locale. Ça a été le cas à Alep lorsque Alep a été libéré du joug du régime. Ça a été le cas ailleurs dans la Syrie. Donc des expériences locales qui ne prenaient pas pour modèle la démocratie occidentale, mais qui étaient une manière d'expérimenter une forme de représentativité, donc pouvoir être représentatif dans la gouvernance de son pays.
Merci à vous Manon Nourtanous, merci à vous Ine Medev, merci à vous Ziane Majed d'avoir donc bien voulu jouer le jeu, de répondre à cette question: que veut la génération des printemps arabes? On a compris qu'ils étaient nombreux, ces printemps arabes, qu'ils étaient dans la durée et surtout que géographiquement ils n'étaient pas tout à fait les mêmes. Merci d'être venu et puis merci à ce public qui s'est rassemblé ici pour cette première journée d'histoire de l'Institut du monde arabe à Paris. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Louise André, Fanny Richer, Rémi Bay, Hugo Boursier et Manon Prissé à la technique, donc à l'Institut du monde arabe, François Rivalan, Yvan Turc et Franck Malabry à la réalisation, Alexandre Manzanares.